Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur Radio Merguez & Co. C'est un immense plaisir de vous retrouver ce soir après 6 mois d'absence, après la dernière course de la saison, le Tour de Lombardie. Radio Merguez & Co. est de retour ce soir pour l'émission de reprise. Donc vous avez pu le voir dans le trick, programme, gros mois de mai et on va parler des courses World Tour. Et qui mieux pour, avec moi, faire cette émission ce soir, m'accompagner, Monsieur Thierry Ladent. Bonsoir, mon cher Thierry.
Salut à tous. Après une longue pause hivernale, un petit peu prolongée, voilà, une petite baisse de forme, et donc on est de retour pour attaquer un beau morceau, un monument, belle course pour le tour, Paris-Nice qui arrive, donc ça fait plaisir d'être de retour pour cette émission.
Et oui, bah le plaisir est partagé, cher Thierry. Et donc oui, gros programme pour cette saison World Tour qui s'annonce exceptionnelle. On a du Pogacar, Vingegaard, Evenepoel, Roglic pour jouer les troubles faites parmi les trois grands noms du cyclisme. Et avant de parler de tout ça, et ben on va commencer, mon cher Thierry, par évoquer les courses de reprise cette saison. Gros programme. Qu'est-ce que t'en as pensé déjà du début de calendrier World Tour? Est-ce que tu as vu éventuellement une petite surprise, quelque chose qui t'a plu dans ce début de saison?
Oh bah y a beaucoup à dire, hein, mais je veux dire que il y a des équipes qui ont plus déçu que d'autres. Je pense peut-être un peu à la Cofidis, qui était peut-être sur une nouvelle ère là sur la saison dernière, qui je pensais se referait sur la vague. C'est pas non plus catastrophique comparé à Total Energy, mais ouais, peut-être un peu de déception sur la Cofidis, mais en général sur la saison, je dirais que j'ai bien aimé. Franchement, il y a eu de jeunes coureurs qui étaient sûrement sur le devant. Il y a eu Van Aertvelt, Martinez, Grégoire, Paul Magnier, Luc Lamperti, enfin voilà, et autres. Et non, franchement, il y a eu, ça s'est assez bien partagé les victoires. Un très gros début de saison d'AG2R, donc ça fait plaisir. Et puis on n'a pas encore vu forcément les grands leaders, Pogacar, Vingegaard et Evenepoel s'affronter un petit peu. Mais voilà, ça va arriver là sur Paris-Nice et surtout sur Paris-Nice. Et donc on a hâte de voir ça.
Et oui. Alors, début de saison World Tour. Alors moi, bien évidemment, l'événement que j'ai retenu, c'est la magnifique victoire de Paul Magnier, si je ne me trompe pas, sur la course. Attendez, je vais retrouver ça tout de suite.
Sur le tour de main.
Voilà, c'est ça, sur le tour de l'Ain, exactement. Magnifique victoire du sprinter français. Franchement, belle surprise, ça fait plaisir de voir qu'il est présent, notre cher français. Bah, ça donne de l'espoir, hein, sur le trophée, c'est ça, oui, sur le trophée Salines Felantix, c'est ça.
Ouais,
Et
elle avait
puis,
gagné en Espagne
ouais.
devant Lamperti. Et puis après, sur le Tour de Mans, il avait plus les watts. Il était quasiment 100 watts au-dessus de 100 watts au-dessus de Cocard. Enfin, c'est pourtant sur une arrivée qui peut correspondre à un coureur comme Cocard.
Oui,
Et même derrière, il dit qu'il n'était même pas prévu. Il était prévu pour faire poisson pilote
c'est
pour
ça,
Lamperti. Et puis il va chercher la
c'est
victoire,
ça,
hein,
c'est ça, c'est ça.
très beau début de
Alors,
saison.
et puis, côté français aussi, alors il y a eu certaines courses en France, et donc c'est la domination de UAE sur les deux faunes classiques, sur la faune Ardèche et sur la faune Drôme classique, avec la victoire de Marc Hirschi sur la faune Drôme, et avec la victoire de Juan Ayuso sur la faune Ardèche, devant Romain Grégoire, l'espoir français qui confirme, et puis Mathias Kelmozieux qui lui aussi confirme qu'il est présent. Ça fait plaisir de voir bah, ces jeunes espoirs aux commandes. On peut aussi citer Aurélien Paré-Peintre qui finit 9e de cette course. Franchement, plutôt intéressant, et ce qui confirme d'ailleurs pour le bon début de saison de AG2R côté pour Aurélien Paré-Peintre.
Ouais, ça confirme. Il a fait de belles courses. Valentin Paré-Patre aussi qui a bien couru. Bastien Trochon.
Ouais, Warren Barguil qui finit quatrième aussi, Benoît Cosnefroy, Dorian Godon 9 et 10, côté AG2R encore, pas mal.
Ouais, puis O'Connor aussi. O'Connor
Oui.
qui perd le tour pour 2 secondes. Un peu dur, ça joue sur des bonifs, mais. Non, ils sortent sur une belle vague et il faut que ça continue comme ça parce que bah, ils sont troisième au niveau des points World Tour là
C'est
sur ce
ça.
début de saison donc voilà faut continuer dans cette dynamique ça c'est que de bon augure. Félix Gall sur Paris-Nice,
Oui,
il faut que
AGA.
ça continue comme ça.
On va en parler. Aussi, et alors, on n'a pas vu énormément les grands leaders, bien sûr, mais certains confirment. Il y a déjà Remco Evenepoel qui s'impose au Portugal, qui s'impose sur le Tour de l'Algarve. On a Wout van Aert. Alors, on en reparlera plus tard. C'est pas un leader de montagne, mais un cycliste de classe mondiale qui s'impose sur Kuurne-Bruxelles-Kuurne. On a Jan Traknik qui s'impose sur le Hoopnes-Nieuwsblad, c'est ça, qui s'impose devant Wout van Aert, il me semble, et devant Nils Polite, c'est ça. Christophe Laporte qui finit cinquième aussi, le Français. Arnaud Delis dixième. Franchement, cette équipe Jumbo-Visma, est-ce qu'on ne se dirigerait pas déjà vers une grosse domination?
Ouais, après je trouve que c'est encore un peu partagé dans le sens où bon voilà Vingegaard a surtout fait le Grand Camino, il était au-dessus mais oui c'est vrai que voilà il y a une surtout sur les classiques il y a une petite domination surtout voilà à ce moment sur l'Homme Loop où Jorgensen, Laporte et Van Aert se retrouvent avec Delis j'ai oublié deux autres quoi avec mais enfin oui, ils se retrouvent à 6 et finalement ils sont vraiment en surdomination mais c'est vrai que sur les classiques ils ont une tendance à avoir énormément de cartes à jouer et c'est forcément leur avantage face aux autres uniques leaders.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et la concurrence n'était pas au rendez-vous. Et d'ailleurs, à noter, on va en parler, mais Lenny Martinez, qui finit deuxième derrière Jonas Vingegaard et qui remporte aujourd'hui le trophée Laguilla
C'est ça, c'est
devant
ça.
Andrea Vandramme et Juan Ayuso, qui confirme bien sûr.
Ouais, puis il avait gagné la Classic Var aussi, hein, avec en
Très
passant
juste.
Johannessen
Très juste, très
sur la
juste.
ligne
Ah
très loin,
oui, bien
c'est.
vu, oui. C'est vrai, oui. Devant Romain Bardet aussi, je crois qu'il finit
Ouais, Romain Bardet
il finit troisième.
qui finit troisième.
Oui.
Et c'est vrai qu'il revient fort, hein, parce que donner le dernier coup à la fin pour aller sauter Johannessen alors qu'on ne voyait même plus sur l'image 100 200 mètres avant franchement
Énorme, ouais, énorme. Franchement, c'est prometteur, ouais. Et quand
même si
même, hein.
Johannessen se trompe hein,
Ouais.
franchement il fait
Oui.
des 500 100
C'est ça, c'est
voire
ça, c'est
50
ça,
derniers
oui.
mètres
Il passe Romain Bardet, il se fait coiffer sur la ligne, mais d'une manière. Et puis quand même sur le au Gran Camo, Lenny Martinez, il finit pas devant n'importe qui, quoi, devant Egan Bernal, Uchtebroeks, Ruben Guerrero, on a Richard Carapaz aussi. Et franchement, c'est du beau monde, hein, c'est du beau monde derrière Lenny Martinez. Moi, je pense que ça promet cette saison côté Groupama FDJ. Et il y en a un que j'ai hâte de voir, de confirmer, qui a fini deuxième de Paris-Nice la saison dernière et qui va s'engager sur ce même Paris-Nice, c'est David Godu. Et j'espère qu'il va confirmer tous les espoirs qu'on place en lui pour un éventuel podium cette saison.
Ouais, c'est vrai, ça a été un peu plus dur là quand même pour lui
Oui.
sur le haut Gran Camino. Mais ouais, ce serait bien qu'il puisse assumer vraiment ce rôle de leader à 200% qui lui est donné maintenant que Thibaut
Oui.
Pinot est parti et voilà, il lui a vraiment passé les armes donc voilà et puis pour Lenny Martinez, je pense que ce Tour d'Espagne, ça lui a fait prendre aussi
De l'expérience.
d'expérience, c'est voilà, c'est rouler 3 semaines, donc bah forcément c'est mieux gérer ses efforts, mieux se connaître. Et on voit aujourd'hui, hein, quand il gagne le trophée Laguilla, La fin de course, il faut savoir la gérer, surtout avec Yann Christen derrière, qui est un bon rouleur. Et finalement, il est pas ridicule face à lui. C'est pas un gabarit de rouleur. Mmh. Et non, franchement, c'était ce Tour d'Espagne lui a fait vraiment prendre de la caisse et hâte de voir ce que ça va donner là par la suite.
Oui. Alors juste avant de continuer, on va saluer également nos amis qui nous écouteront en podcast. Bonsoir, bonsoir, bonjour à vous. J'ai oublié en tout début d'émission de vous saluer. Merci de nous écouter pour ce grand retour de Barbecue Vélo. Et bah, si vous êtes des fidèles de Radio Merguez & Co et de Barbecue Vélo, bah, c'est le tandem Alain-Philippe Ladan qui vous parle ce soir. Alors ensuite, on va passer à Mats Pedersen qui fait un gros début de saison, je trouve. Mats Pedersen qui allait s'imposer en France sur le Tour de la Provence, qui finit premier devant Axel Zinglet et Raul Piñera. Gros début de saison de Mats Pedersen, ça promet pour la suite. J'espère. Tu penses qu'il va enfin confirmer et assumer définitivement son potentiel de coureur de classe mondiale, il allait remporter un, deux monuments peut-être cette saison.
C'est un peu compliqué. Après, Mats Pedersen, je pense que même s'il va pas performer à 200%, mais s'il va pas chercher de monument, je pense que ça reste un coureur de classe mondiale dont il faudra se méfier tout le temps. Même si je pense que son début de saison est quand même à relativiser. Alors, certes, ça reste quand même des courses cyclistes professionnelles. Mais voilà, faut relativiser sur le niveau qu'il y avait quand même sur ce Tour de la Provence, sur l'étoile de Bessèges, qui va chercher. Il y a de la concurrence, mais c'est vrai qu'il écrase. On sent qu'il est quand même bien au-dessus. Hâte de voir ce que ça va donner. Il va y avoir l'enchaînement avec Milan Sanremo, avec Gambevelgem, etc. là dans le mois. Donc c'est là où il faudra confirmer qui montre que ce qu'il a fait en début de saison, c'est pour la confiance. Il allait chercher des étapes, il a montré qu'il était supérieur. Maintenant, il faut confirmer face à Van Aert, face à Van Der Poel. Et là, quand il aura encore plus confirmé, peut-être que on pourra peut-être le mettre peut-être même plus que favori devant certains coureurs, peut-être pour Paris-Roubaix.
Ouais, c'est vrai. Surtout que Mats Pedersen, c'est un profil assez complet, à la Michael Matthews, à la fois sprinter, puncher, qu'il aime bien les pavés aussi.
Très bon rouleur.
Très bon rouleur aussi, Mats Pedersen. Il l'a montré lors de ce Tour de la Provence et sur l'étoile de Bessèges, il a un peu écrasé le chrono. Donc oui, Mats Pedersen, profil très très complet. Ensuite, alors, une petite dernière, moi que j'ai trouvé ça peut être intéressant de noter, c'est Dylan Groenewegen qui remporte la Clásica Comunitat de Valencia devant Brian Cocquart. Brian Cocquart d'ailleurs a confirmé. On va espérer que pour Cofidis et pour les Français en général, la saison se passera bien. Mais Brian Cocquart, habitué des deuxièmes places, des podiums, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Est-ce que ça serait peut-être pas la saison de trop pour le coq? Est-ce que ça commencerait pas à faire beaucoup ces bonnes performances, mais qui ne se concrétisent jamais en victoire?
Je pense que surtout là sur les places qu'il prend, il faut surtout se dire que Brian Cocquart, il faut vraiment que l'étape lui convienne de 200% pour qu'il puisse aller chercher plus que d'habitude. Il faut vraiment que ça soit vraiment une arrivée qui lui correspond à 200%. Et c'est vrai que c'est compliqué, il faut que ça soit ça, faut que ça grimpe assez. Et puis, quand il est vraiment fort et tombe sur Merlire, on a vu sur la Tour que ça lui correspondait, mais que face à Merlire qui fait un début de saison monstrueux, c'était assez compliqué. Donc c'est, je pense, pas la saison de trop, dans le sens où tant qu'il fera des top 5, tant qu'il pourra rivaliser à peu près avec le podium, c'est qu'il sera toujours en forme sur des arrivées qui lui correspondent pas forcément. Et non, je pense que Cofidis a besoin de Cocquart. Je pense aussi, c'est ça qu'il faut.
Oui, surtout qu'ils ont perdu ils ont perdu leur vainqueur d'étape sur le Tour de France. Victor l'a fait. Donc il va falloir confirmer pour cette équipe Cofidis qui a des bons éléments dans son équipe, mais à voir. Alors, à moins que tu n'aies éventuellement quelque chose à dire sur les courses World Tour, sur les vainqueurs, sur les courses en général, on va passer peut-être à la suite du programme, c'est-à-dire les quatre grandes courses de saison qui vont un petit peu donner le ton. On a tout d'abord l'Estrade Bianche, Paris-Nice, Tirreno, et puis le premier monument de la saison, Milan-San Remo. Tout d'abord Tirreno, l'Estrade Bianche, pardon. Il y a du lourd quand même sur cette starlist. Tom Pidcock, je vois Higuita, il y a Guillaume Martin, Valentin Madouas, Lorenzo Rota, Andrea Baggioli. Il y a énormément de noms encore. Julien Alaphilippe qui sera présent, Simon Yates qui sera présent pour Alula. Christophe Laporte, Sepp Kuss, Tadej Pogacar, Mohoric, que des noms qui font rêver. Qu'est-ce que t'en penses? Tu dégages un gros favori?
Bah là, comme ça, ça c'est très tentant de dire Poggi quand même, hein. Enfin, dire Pogacar, parce que c'est vrai que sur une course, alors on va pas dire à peu près pareil, mais sur la Classica Rennes l'année dernière, il avait fait un beau numéro, donc c'est forcément un parcours qui lui convient. Malgré tout, il sera pas, voilà, il faut pas le, c'est un grand favori, mais grand favori en reprise quand même. Faut le préciser. Le parcours aussi s'est allongé de 20 km en plus, donc c'est aussi une course qui va faire quasiment 200 km. Et puis le vainqueur de l'année dernière, Pidcock, qui sera là aussi, on sait qu'il peut faire la différence, notamment en descente. Ouais, il l'avait montré. Hein. C'est là où il arrive à partir. Et puis il faut pas oublier non plus la Jumbo, enfin la Visma Lease Bike.
C'est ça.
Qui viendra avec Laporte, Kuss, qui était sur la Classic Arena aussi, Kuss. Donc voilà. Mais si vraiment on doit dégager un grand favori, je dirais que Pogacar part avec quelques longueurs d'avance.
C'est vrai, Pogacar, oui, paraît le grand favori. Hein, il n'y a pas débat. Hein, on voit tous les profils, mais je pense que il y a pas débat. C'est le coureur peut-être le plus polyvalent de l'effectif de la startlist de cette Estrade Bianche, mais attention, comme l'Estrade Bianche, c'est une sorte de Paris Tour mais avec plus de difficultés, des côtes à monter, ces grands chemins blancs, et on sait jamais, certains vainqueurs qui étaient promis à cette Estrade Bianche l'ont échappé à cause de ça, à cause de ces chemins blancs, les crevaisons, on n'est jamais à l'abri. Et moi, je pense que la course est loin d'être faite, et je verrais bien, par exemple, un Christophe Laporte, ou il y a Magnus Cort Nielsen, par exemple, le profil du coup. Viens bas, Tom Pidcock, bien sûr, comme tu l'as dit, avec les différences qu'il peut faire en descente. Donc, c'est à voir. Et puis, on sait jamais, une échappée qui peut également aller au bout. Il y a le nom de Ben Healy qui me revient bien aussi. J'ai hâte de voir sa saison, voir
Romain
s'il
Grégoire
va réussir.
Qui sera là aussi.
Et oui, Romain Grégoire, Valentin Madouas, Dylan Teuns aussi, qui sera présent. Et puis la paire française de chez DSM, Bardet-Barguil, pourquoi pas.
Ouais, pourquoi pas. Après, Guillaume Martin qui vient faire sa reprise. Il sort du Covid. Mm-hmm. Il n'a pas l'habitude de faire l'estradé. Et puis... Il sera là avec le Covid qui a modifié un petit peu son début de saison. Il vient se frotter au chemin blanc d'Italie et hâte de voir ce que ça pourrait donner.
Ouais. Alors, il y a un nom aussi qui ressort, bien sûr, c'est Julien Alaphilippe. Notre cher Julien Alaphilippe, notre double champion du monde, présent sur l'Estrade Bianche. Et il s'en est passé des choses. avec son manager Patrick Lefebvre. Qu'est-ce qu'il faut en penser, franchement? Parce que Julien, ça fait 2 ans que les résultats ne sont pas là, c'est vrai, il faut le reconnaître. Oui, ça fait 2 ans qu'il n'y a pas de résultats côté Julien, à part une victoire sur le Dauphiné, une victoire sur la classique Faune Ardèche. Est-ce que Lefebvre n'aurait-il pas raison? Est-ce que il profiterait trop ou je ne sais pas. Qu'en penses-tu, mon cher Thierry?
En profiter trop, ça, c'est compliqué, hein. C'est compliqué à dire. On sait pas. Il y a des choses qui ont été dites. Voilà, on peut pas de nous-mêmes vérifier. On peut pas non plus, voilà, savoir vraiment ce qu'il a fait, ce qu'il a pas fait. Enfin, ça n'empêche que fait reprocher à un coureur comme ça, faire un peu un procès public. Puis voilà, puis on sait que des fois, voilà, ça peut être repris, ça peut être très vite, peut-être un peu déformé comme il l'a dit, je ne sais plus trop, mais voilà, il a dit que ça a été un peu déformé, mais malgré tout, je pense que c'est pas quelque chose qu'on aurait dû savoir. C'est quelque chose qui doit rester entre eux. Ils se tirent un peu la bourre, surtout Lefebvre, hein, surtout Lefebvre qui canarde un peu Julien de tous les côtés. Ça commence à faire un petit bout de temps. Est-ce que c'est pas ça aussi? Est-ce qu'il a vraiment la confiance de Lefebvre, hein, une perte de confiance? Remco aussi qui est arrivé, il a un peu perdu ce leadership de la Quickstep aussi, Julien. Il était vraiment le leader. Remco est bien revenu. Donc ben forcément, perte de leadership, moins de confiance, procès public et voilà ce que ça peut donner, un peu de malchance sur le vélo, du Covid qui s'est glissé là-dedans, un peu malade et voilà, ça donne des saisons un peu compliquées. Là encore une fois, il est tombé 2 fois sur l'homme loup, donc ouais, je dirais que voilà, ces déclarations publiques, ouais, j'aime pas trop, qui gère ça entre eux, qui lui reproche, mais voilà, je pense qu'il y a des trucs qu'on n'aurait pas dû savoir, et pour la confiance du coureur, c'est quand même mauvais, quoi.
C'est vrai que le débat en soi n'a pas trop lieu d'être. Déjà, à la rigueur, sur les fêtes, éventuellement, pourquoi pas? Mais je trouve que ça allait trop loin lorsqu'il, sur son contrat, à la rigueur, oui, peut-être une provocation, pourquoi pas, pour essayer de lui mettre un peu la pression, ce qui peut se comprendre, mais déjà on le fait pas en public. Et en plus, critiquer sa relation avec Marion, là par contre, ça commence à devenir un peu chaud. Je trouve que c'est des éléments qui viennent influencer sur sa vie privée, et qui viennent la violer, sa vie privée. Je trouve que ça n'a pas tellement lieu d'être. Et Julien, il faut avant tout le protéger, parce que on sait de quoi il est capable et on sait de quoi il n'est pas capable. Et en général, c'est un coureur qui court avec le plaisir, l'envie de faire bien. Et si on lui met trop la pression, ou si éventuellement il n'aime plus ce qu'il fait, bah là, ça commencerait à devenir compliqué. Et moi, je trouve ça dommage quand même que ça se finisse comme ça avec Quickstep, la formation qui lui a tout donné. Et inversement, il a tout donné pour Quickstep. Et puis, je trouve que ça va un peu loin, quoi, pour cette histoire, comme tu l'as dit. Je pense que ça devrait se régler en privé. Et puis voilà, il n'y a pas. Mais je pense que la polémique n'a pas lieu d'être et qu'on devrait laisser Julien faire son travail. Voilà.
Ouais, puis hein, il en prend déjà assez dans les médias, etc., sur ses performances. Donc, rajouter ça, voilà, sur un début de saison, c'est vraiment pas. Voilà, quoi. C'est un peu difficile pour lui.
Ouais, exactement. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur le dossier Alaphilippe. Et puis maintenant, bah, on va s'attaquer aux 2 gros morceaux de la première partie du début de saison. Tirreno-Adriatico et Paris-Nice. Est-ce que ces 2 courses sont déjà jouées? Est-ce que, quand on voit la start list côté Paris-Nice, on voit Roglic Et comme deuxième gros favori, on voit Remco Evenepoel. Et côté Tirreno Adriatico, le nom qui ressort, Vingegaard. Vingegaard, le vainqueur du Tour de France, deuxième de la Vuelta. Déjà joué ces deux courses ou y a-t-il encore débat, en tout cas pour le classement général?
Ouais, sur Paris-Nice, je pense que oui, il y a largement débat. Roglic, moi, qui vient faire sa course de reprise, mais voilà, il va y avoir une belle start list avec Bilbao, il y aura Godu, il y aura Evenepoel, donc il y aura quand même une belle start list qu'il faut pas non plus négliger. C'est vrai que Evenepoel a fait du Evenepoel sur la Figueira classique. Il a fait un très bon tour d'Algarve, mais malgré tout, ça reste pas des courses jouées d'avance. Surtout Paris-Nice, il y a quand même de bons coureurs avec de bonnes références qui peuvent aller les chercher. Alors c'est vrai que sur Tirreno, voilà, il y aura la doublette Hudebrooks Vingegaard comme sur le Grand Camino, avec peut-être un peu moins de concurrence. Il y aura Ayuso. Mais ouais, un peu plus compliqué. Il y aura O'Connor, Daniel Martinez, qui a fait un beau début de saison, ouais, aussi, qui est allé chercher une belle victoire. Donc, jouer d'avance, je dirais pas ça. Je dirais qu'il y a plus un plus gros favori sur Tirreno Adriatico qui Vingegaard. Mais sur Paris-Nice, je pense qu'il y a largement de quoi rivaliser face à Evenepoel. Roglic vient avec Vlasov. Bilbao aura une belle équipe autour de lui aussi. David Godu, c'est pareil. Donc non, c'est pas jouer d'avance.
Bah pour Tirreno Adriatico, ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que la course n'est pas jouée parce qu'on ne sait jamais. Mais le favori qui se dégage, c'est bien sûr Vingegaard. Hein. En plus, vu l'équipe qu'il a autour de lui, Valter, Hustebrooks, Robert Reising, Steven Krushbike, des grands noms pour l'accompagner. Voilà, je pense que ce qu'on aurait pu reprocher à Jumbo-Visma par le passé, c'est le manque d'équipiers. Bah là, il les a, hein, Jonas Vingegaard. Donc ça, là-dessus, il y a pas de débat. Il y aura pas de débat non plus sur le leadership. Roglic n'est plus là, donc ça non plus, il y aura pas de débat. Et par contre, oui, au niveau des favoris qui vont l'affronter, moins de monde que sur Paris-Nice. Il y a Gegenhardt qui est présent, Simon Yates, comme tu l'as dit, Daniel Martinez, Jevine éventuellement aussi.
O'Connor aussi.
Ben O'Connor, oui, qui fait un très beau début de saison, on en a parlé. Mais sinon, il y a moins de favoris. Côté UAE Emirates, Adam Yates qui sera présent, Juan Ayuso. Ayuso, attention, qui est très en forme, on en a parlé. Mais sinon, il n'y a pas d'énormes favoris et Pogacar ne sera pas là pour défendre son titre sur Tirreno. Et puis pour Paris-Nice, là il y a du monde, il y a quand même des sacrés gaillards, quoi. Comme on l'a dit, les deux favoris, Roglic et Evenepoel. Le plus en forme a l'air Remco. On n'a pas trop vu Roglic en ce début de saison, mais Roglic connaît ses routes françaises. Remco Evenepoel, il me semble que c'est seulement la première fois qu'il vient se confronter aux routes françaises, si je ne dis pas de bêtises. Première fois sur Paris-Nice. Et alors que Roglic, on le connaît, hein, il a perdu deux fois Paris-Nice pour peu, pour des bêtises. Il a remporté la saison dernière, par contre. Mais je pense que Roglic est le mieux placé en termes d'expérience, mais au niveau de la fraîcheur, je dirais Remco Evenepoel. Après, à ne pas sous-estimer aussi, parce que on l'avait bien vu la saison dernière, le plus en forme c'était Pogacar, et après il y avait David Godu qui était présent. Moi, je place de grands espoirs en David Godu cette saison. On en parlait un petit peu en off avant de avant de commencer l'émission, David Godieu, j'espère qu'il va assumer son statut de leader maintenant que Thibaut Pinot n'est plus là et qu'il va enfin confirmer et essayer de faire des podiums.
Ouais, c'est sûr, c'est faut espérer. Il va avoir un rôle encore un peu plus important qu'avant, même si je trouve que la passation de, on va dire, de leadership entre Thibaut et David s'est plutôt bien faite. Il a peut-être encore un peu plus de leadership aujourd'hui, mais avec ce que Lini Martinez peut faire, voilà, ça peut le, je vais pas dire le dédouaner un petit peu, mais pas oublier, voilà, sur le Grand Camino, ben Lini finit devant, mais voilà, Lini était peut-être un peu mieux, donc il n'hésite pas non plus à assumer statut de leadership. Et statut de leadership, c'est aussi savoir reconnaître que sur certaines courses, il peut être un peu moins bon. Et voilà, il faut qu'il se mette en jambe. Il avait fini deuxième l'année dernière. Il avait fait top 3.
C'est ça, deuxième.
C'est une course qui lui a bien réussi l'année dernière. Il faut qu'il continue, qu'il se mette en jambe. Et ça finira par payer. Et je pense qu'il y a de quoi faire sur ce Paris-Nice avec cette start list. Il y a pas mal de coureurs qui reprennent.
Alors, si on parle du parcours quand même, on va en parler, on va faire un petit peu le détail. Première étape, 257 km entre les Mureaux et les Mureaux, avec trois côtes qui ont des passages à plus de 10%. Il y a le sprint intermédiaire à Montaville, et il y a les deux passages à la côte d'Herbeville, notamment un passage à 149,7 km, à peu près à 10 km de l'arrivée. Première étape casse-patte. Et vu la start list, on peut penser que des coureurs comme Mats Pedersen, Brian Cocard éventuellement, qui d'autre encore, il y a Fabio Jakobsen qui passe plutôt bien les bosses. Il me semble, il y a Michael Matthews, Matteo Trentin, Pascal Ackermann. Les sprinteurs au rendez-vous, ou tu penses qu'il y a débat? Il y a débat et ça sera plus pour un puncher sprinter, voire même un puncher.
Ouais, je pense que ça sera majoritairement des sprinters. Après, avec la plupart des sprinters qui sont sur ce Paris-Nice, ont quand même un peu de punch. Pedersen, voilà, Matthews, tu as cité un Cocard. Cocard, quoi, qui est pas mauvais non plus. Deli, donc ça peut être peut-être un peu plus difficile pour Jakobsen, par exemple. Mais non, je pense qu'en général, les coureurs qui sont là passeront cette bosse. Maintenant, tout dépend de qui voudra peut-être fausser le résultat, mais aller chercher quelque chose et démarrer un petit groupe qui peut sortir, ça peut se regarder un peu derrière, et pourquoi pas, même si c'est vrai que il y a quand même, ça sera quand même assez plat malgré la descente, c'est plutôt avantage sprinter, mais ça reste, faudra faire attention à quelques baroudeurs qui pourraient venir jouer les troubles faits, voilà, dans cette côte d'Herbeville.
Deuxième étape, complètement plate, deux petites difficultés en troisième catégorie, et une arrivée à Montargis. Étape pour les sprinteurs, pas une bosse après 66 km. Le favori,
Coy de Klein aussi, qui fait un très beau début de saison. Je pense que De Klein aussi mérite d'être mis un peu devant. Et puis pour peut-être Deli aussi. Deli Tyson qui a fait un bon, mais voilà, c'est vrai que Coy sur le papier partira avec une petite longueur d'avance, même si voilà, Arvid De Klein a fait un très beau début de saison, notamment sur l'UAE Tour, et il sera vraiment à surveiller.
Ok. Moi, je pense que Coy favori. Troisième étape, contre la montre par équipe. Et oui, contre la montre par équipe avec deux difficultés, dont la côte de Jussy arrivé à Auxerre. Grosse étape hein, pour les favoris.
Ouais, ce sera une grosse étape. Avec un beau chrono. C'est vrai qu'après, moi j'ai un petit coup de cœur quand même sur ces chronos par équipe. Je trouve oui. que c'est vraiment l'optimisation à 200%. C'est des passages de relais qui se font parfaitement, où ils connaissent les écarts, ils savent comment s'écarter pour gagner le... Ça se joue vraiment à la seconde près. Et donc c'est vraiment un exercice que je trouve vraiment, vraiment sympa à regarder. Et il y a quelques coureurs pour qui le contrat par équipe, ça aidera. Je pense peut-être un peu à David Gaudu, hein, qui viendra... Oui. Viendra avec de bons rouleurs quand même. Félix Gall aussi, même s'il a quand même bien amélioré son chrono. Voilà, je pense que ce chrono par équipe fera un peu de différence, comme il en a fait.
Kung n'est pas côté Gaudu, Kung n'est pas sur...
Kung n'est pas sur Paris. Mais ouais, ça roulera quand même du côté de la Groupama. Il y a quand même deux trois bons rouleurs.
Eric Bierstrom, Kevin Geniet, ça roule bien aussi, ouais.
Lorenz Pitti aussi.
Ouais, ça va. Mais bon, je pense que favori, je pense qu'on est quand même sur. Peut-être pas Jumbo, mais je pense que plutôt, ouais. Il y a débat entre Jumbo et Soudal Quickstep, parce que chez la. Et UAE. Aussi, oui, UAE qui roule bien. Mais
il y a aussi, hein. Je suis à Tarling, ouais. Carlos Rodriguez, Jonathan Castroviro aussi.
Ça roule
plutôt pas mal.
Je pense que ça va être beau. Et puis, pour les favoris, il ne faut pas manquer le rendez-vous. Quoi.
C'est ça. Après, il n'y aura pas d'écart comme sur un contre-la-montre. Il y en aura forcément. Mais
moi, je pense que.
Gaudu perd pas autant que ça l'année dernière, hein, il me semble.
Mais il faut pas se faire piéger. On sait jamais. Mais oui, je pense que les écarts seront minimes par rapport à un contre-la-montre individuel, c'est vrai.
Il y en a qui ont dû être contents quand ils ont vu que ça serait par équipe plutôt qu'individuel, je pense.
Oui. Ensuite, quatrième étape. On rentre tout de suite dans le vif du sujet avec une étape de montagne entre Chalon-sur-Saône et le Mont-Brouilly. Alors, étape de montagne semi-vallonnée, malgré les gros passages sur la Mante. Ça reste quand même un gros rendez-vous à prendre pour les favoris, l'étape 4, avec l'arrivée au Mont-Brouilly, un classique sur Paris-Nice. On peut se souvenir en 2018 le contre-la-montre avec l'arrivée au Mont-Brouilly. Trop tôt pour se dévoiler côté favori ou tout de suite on attaque?
Non, je pense que ça attaquera. Peut-être même ceux qui ont peut-être perdu un peu de temps sur le chrono sur le chrono la veille, pardon. Voudront peut-être un peu se rattraper. Maintenant, ce qui sera intéressant, c'est est-ce que ça attaquera avant le Mont-Brouilly, ou est-ce que ils attendront vraiment la montée finale, qui aura à faire des différences dans la descente. Ce sera intéressant à voir. Mais je pense que ceux qui auront perdu du temps sur le chrono de la veille s'ils ont les jambes, ont tout intérêt à partir un peu avant le Mont-Brouilly, avant ces trois derniers kilomètres à 7,7% pour peut-être essayer de gommer un petit peu ces secondes de perdu sur le chrono la veille. Mais ouais, je pense que ça peut déjà jouer et ça peut permettre à certains de revenir dans les clous au général.
Ouais, je pense que c'est l'étape où il va falloir se mettre en jambes. Et le lendemain, étape pour puncher sprinter, avoir quelques côtes, pas insurmontable pour les sprinters, je pense, avec l'arrivée à Sisteron. Possible que ça passe.
Ouais, je pense que ça passera. Enfin, comme j'ai dit tout à l'heure, la plupart des sprinters qui sont là passent quand même assez bien les bosses, peut-être un peu moins Jakobsen. Mais la plupart passent à peu près tous bien les bosses, donc Non, ça devrait arriver pas sur, enfin, arriver en sprint massif si tout se passe bien, si les baroudeurs jouent pas un tour, une échappée d'une
oui,
quinzaine de coureurs,
pas.
Par exemple, hein, qui pourraient
Oui, exactement.
partir et fausser un peu, hein, fausser, je vois les troubles faits là, un peu sur cette étape et empêcher les sprinteurs de disputer la victoire à Sisteron.
En parlant de baroudeur, tu me tends une perche, mon cher Thierry. Étape numéro 6 entre Sisteron et la Colle sur Loup. Quatre côtes classées en deuxième catégorie et une arrivée en descente après une descente sur la Colle sur Loup. Baroudeur. Bah, étape pour les baroudeurs.
Ouais, ça, en fait, ça dépend qui voudra, qui partira dans cette deuxième catégorie de la colle sur loup, quasiment 2 km à 10% avec des passages à plus de 15%, donc faudra qu'il y ait un petit groupe qui sorte quand même pour fausser compagnie, surtout que
il y en a pas mal des baroudeurs sur ce.
Ouais, surtout que ça redescend pas directement. Ça redescend pas directement. Il y aura la tourette sur loup aussi. Donc ouais, ça peut être intéressant. Voir qui passera, quels sprinters resteront et quelle équipe pourra assumer le poids de la course derrière pour revenir sur peut-être un coup de plusieurs baroudeurs qui partiront dans la colle sur loup.
Le lendemain, le triptyque de Nice, arrivé à Oron, col de première catégorie, et puis avant tout ça, en petit apéritif, nous avons la Colmienne, bien sûr, et la côte des Gâtières, étape pour les favoris, bien sûr.
Ouais, étape pour les favoris. Avant la mythique étape de Nice. Ouais, après peut-être que là cette fois-ci, peut-être qu'il y aura pas, sera peut-être pas l'étape qui fera le plus de différence, parce que il y a quand même un sacré morceau le lendemain.
Ouais.
Et s'il y a déjà des écarts assez conséquents après le Mont-Brouilly, peut-être que voilà, les favoris se découvriront pas. C'est typiquement, je pense, une étape qui peut convenir à une échappée qui pourrait partir et jouer l'étape. Il y a, comme on a dit, il y a quelques bons coureurs hein, qui peuvent pas jouer le général, mais qui dans une échappée font toujours office de favoris. Donc c'est clair que ouais.
Et enfin le lendemain. La mythique étape de Nice, Nice-Nice, avec la côte de Levant, la côte Châteauneuf, la côte de Berre-les-Alpes, la côte de Pey, le col d'Aise, bien évidemment, avec ses passages à 13%, le col d'Aise qui attribuera des bonifications, et enfin, pour terminer, le col des quatre chemins avec des passages 3,6 km à 8,8% de moyenne, un passage à 16%, puis la descente pour l'arrivée mythique à Nice. Est-ce que tout peut jouer ou il y aura contrôle des favoris sur cette course, contrôle du leader et la course sera peut-être cadenassée?
Ça dépendra beaucoup de l'étape de la veille. Si sur l'étape de la veille, ça joue entre les favoris et qu'il y a des écarts, ben ça sera un peu à double tranchant, soit ça partira d'assez loin et donc ça peut nous donner vraiment une très belle course, soit ça sera peut-être un peu joué et donc on pourra avoir un contrôle, même si je pense que ça sera vraiment l'arrivée, enfin l'étape qui désignera vraiment le vainqueur de Sparini, c'est vraiment l'étape reine. Si on considère qu'après le Mont-Brouilly, il y aura pas forcément énormément d'écart, ce sera vraiment l'étape sur laquelle les favoris miseront peut-être tout et se réserveront peut-être s'économiseront la semaine pour faire un beau numéro sur cette étape.
Et puis petite course de repérage pour les coureurs du Tour de France, vu que les deux dernières étapes sont autour de Nice. Avec l'étape Nice Col de la Couilleuille, avec la Colmiane, le col de Turigny, le col de Brosse et puis la Couilleule sur la 20e étape. Et puis le lendemain, le contre-la-montre individuel entre Monaco et Nice, avec bien évidemment le Col d'Aise en juge de paix pour ce contre-la-montre du côté du Tour de France. Parlons-en, tant qu'on reste en France. Le parcours du Tour de France qui a été dévoilé il y a longtemps, et on va en profiter bien évidemment de cette émission pour parler du profil. Qu'est-ce que t'en penses, Thierry?
Ah, moi quand le parcours a été dévoilé, j'étais plutôt content, même s'il y a quelques étapes où je trouve qu'il y a, enfin, il manque peut-être quelques opportunités, des côtes mythiques qui sont assez loin, avec des côtes, avec des arrivées au sommet qui auraient pu être un peu plus belles. Malgré tout, moi, voilà, étant dans le Nord, voilà, j'aime beaucoup, voilà, l'étape de Troyes. Voilà, ça sera une étape un peu dangereuse, hein, clairement, comme il y a pu avoir les pavés il y a pas longtemps sur le Tour de France. On sait que ça peut être une journée galère. Et voilà, ça vient rajouter de piment. Alors, ça vient rajouter un peu de piment. C'est vrai que c'est pas de la vie de tout le monde. Hein. Remco Evenepoel était un peu déçu qu'il y ait ces chemins blancs entre les vignes de France.
Ah, moi, je pense que ça va être magnifique. Hein.
Mais c'est vrai que voilà, pour nous, forcément, voilà, ça nous fait quand même un peu plaisir. C'est une étape où tout peut se passer, où personne ne pourra vraiment prédire de favori, et qui peut être très bénéfique pour certains et faire perdre beaucoup pour d'autres. C'est pour ça que voilà, ça déplaît très certainement à Remco qui, je vais pas dire c'est un peu du hasard, mais voilà, il y a un peu une part de chance un peu dans ses courses. Et,
On l'avait bien vu, hein, Thibaut Pinot qui a sur l'étape des pavés en 2015 qui n'a fait que crever, Vincenzo Nibali qui prend de l'avance en 2014 sur l'étape des pavés avec Lars Boom pour l'aider, et puis bien évidemment en 2018 l'abandon de Richie Porte sur l'étape des pavés, de TJ Van Garderen également en 2018. Et cette étape des pavés est la première victoire de John Degenkolb sur le Tour de France, lui qui courait après cette victoire depuis des années.
Ouais, ça, c'est toujours de belles courses et avec, comme on dit, une part de chance.
Oui. Et puis, c'est aussi une manière de remettre en lumière ces chemins blancs français, vu que Paris-Tours, la classique des feuilles mortes, n'est plus qu'au rang de Pro Series, et c'est une manière de mettre en lumière ces magnifiques chemins blancs qui sont empruntés lors de la course. Et puis à noter aussi sur le parcours du Tour de France, deux contre-la-montre, 25 km entre Nuits-Saint-Georges et Gerveray-Chambertin, et puis bien évidemment le chrono de 34 km entre Monaco et Nice. Les deux chronos, hasard, pas hasard, présence de Evenepoel, Vingegaard, Pogacar et Roglic qui sont des spécialistes en chrono. Et puis surtout, bah, quand même, hein, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu au moins deux bons gros chronos sur le Tour de France.
C'est vrai que là, il y a deux beaux chronos, notamment on finira le Tour de France par un chrono.
Oui, ça n'a pas été fait depuis très très longtemps.
C'est ça, donc on finira, ça jouera peut-être beaucoup, peut-être pas, peut-être que ça sera joué d'ici là. Mais en tout cas, c'est un beau parcours pour le dernier contre-la-montre. Ça favorisera aussi ceux qui ont peut-être un peu plus de difficultés sur le vélo de chrono. Pourrait être un peu plus compliqué pour les moins bons spécialistes, hein, sur l'étape 7. Ça sera peut-être un peu moins sur la dernière étape, parce que voilà, il y a des difficultés sur ce chrono de la 21e étape. Donc ouais, non, deux bons chronos, dont le dernier qui aidera un petit peu les moins bons spécialistes à perdre peut-être moins de temps, à sauver une place au général ou à autrement en gagner.
Oui, c'est vrai que le contre-la-montre, hein, c'est une discipline qui est souvent boudée, et je trouve que c'est plaisant de voir que les favoris prétendant au classement général s'intéressent à cette discipline et que les organisateurs y mettent également de l'importance. Et puis, sur le parcours du Tour de France, encore une fois à noter, c'est qu'il y a des arrivées mythiques qui sont de retour, notamment la magnifique étape du plateau de Baye. Oh là là, les souvenirs quand même sur ce plateau de Baye. Thomas Voeckler, ça, je ne sais pas si ça vous fait quelque chose quand même, mais c'est exceptionnel. Le retour à Isola 2000 aussi. Saint-Lary-Soulan, la victoire de, on se souviendra de la victoire de Nairo Quintana qui s'était imposé à Saint-Lary-Soulan en 2018. En montagne, il y a quand même du calibre, hein.
Ah ouais, y a de belles étapes, y a de belles étapes quand même, hein. On retrouve quand même de beaux morceaux. Donc non, ça va être c'est un beau parcours, avec un beau départ en Italie qui risque d'être sympa. Donc non, franchement, ouais,
Mais
satisfait
oui.
du parcours et hâte de voir ce que ça donnera.
Cette terre de cyclisme, l'Italie, bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, en parlant d'Italie, un des gros des prétendants à ce Tour de France, notre cher Tadej Pogacar, va tenter l'exploit qui n'a plus été réalisé depuis Marco Pantani, époque sombre du cyclisme, le doublé Giro Tour de France. Faisable? Infaisable? Est-ce que ça serait pas trop pour Poggi? En plus, il a un sacré calendrier. Hein. Tadej Pogacar, il va notamment se frotter à Liège-Bastogne-Liège avant d'aller sur ce Giro. T'en penses quoi, Thierry? Faisable, infaisable? Quand même, ça, c'est beaucoup. Hein. Beaucoup s'y sont essayés, notamment Christopher Froome en 2019, qui avait déjà bien galéré sur les 2 premières semaines avant de remporter le Tour de France avec le Tour d'Italie avec la magnifique arrivée au col avec l'arrivée au col de Finestré, l'étape dantesque où Simon Yates perd le maillot rose, prend 25 minutes et Christopher Froome qui attaque à plus de 90 km de l'arrivée, c'était exceptionnel. L'époque où encore l'équipe diffusait le Giro Milan-San Remo Strade Bianche sur la télé française gratuite. Alors, t'en penses quoi?
Ça sera compliqué. De toute façon, c'est clair que ce sera compliqué. Maintenant, il a un calendrier qui est fait pour ses deux objectifs. Avec Liège-Bastogne-Liège, on sait que un calendrier qui est assez restreint. Il part sur l'Estrade, il va faire Liège-Bastogne-Liège, Milan-San Remo. Il fera une course par étape avant le Giro, qui sera le Tour de Catalogne. Et après, il attaquera le Giro, puis le Tour. Ça sera forcément un peu compliqué, surtout quand on voit que ben c'était ces 2 dernières années sur le Tour de France, ça lui a pas forcément souri, surtout l'année dernière où il a quand même pris plus de 7 minutes, hein, par Vingegaard. Donc ouais, faisable, oui, parce qu'on connaît le coureur, on connaît le talent, et on sait que c'est un coureur qui est extraordinaire. Maintenant, il n'a pas gagné sur le Tour de France depuis 2 ans. Il a pris quand même, je pense, un petit coup sur la tête avec ses 7 minutes l'année dernière. Donc
Ah, une belle claque,
peut-être il
quoi.
se rassurera sur le Giro, puis il reviendra bien peu sur le Tour.
Ah, et puis le Giro, c'est une course qui lui convient bien quand même à Pogacar, je trouve. Il est assez polyvalent. Et Pogacar, il aime bien en plus les enfin, il aime bien. Il s'adapte bien aux conditions difficiles. Je pense que le Giro, ça sera entre guillemets une formalité pour lui. Et puis après, on verra ce que ça donne. Pour Poggi, mais je pense que c'est pas infaisable, mais quand même, moi en tout cas, il y a quelque chose qui m'inquiète, mais qui me fait toujours peur à chaque fois, c'est de se dire que le dernier qu'il a fait, c'est Pantani, et Pantani, c'est un des hommes les plus dopés de l'histoire. On ne pourra pas le nier, malgré ses performances sportives assez impressionnantes, bah. On sait bien qu'il y a une part qui est assez sombre de la part de Pantani. Donc, moi, c'est pas que ça m'inquiète, mais à chaque fois, je me dis, c'est quand même inquiétant. un petit peu.
C'est pas vrai, non, c'est vrai que quand on y repense, c'est vrai que s'il y arrive, voilà, il y aura toujours, de toute façon, cette part de doute de la part des plus sceptiques, il y aura toujours cette part de doute. Maintenant, c'est vrai qu'enfin, on parle beaucoup et certains disent oui, c'est pas un argument, mais quand on compare le matériel, tout est calculé au millimètre et au milligramme près aussi. Hein, il faut se rendre compte tout est calculé, les chiffres on fait une apparition qui est de plus en plus folle dans le sport en général et fait aujourd'hui de plus en plus apparition dans le vélo.
De plus en plus de technologie, exactement. Oui.
C'est ça. Et puis, enfin, il y avait une interview sur West France de Benjamin Thomas où il parlait que, enfin, là, son neveu parlait déjà de watts, etc. Enfin, on sent qu'il y a aussi une, je vais pas dire une professionnalisation parce que c'est pas vraiment le mot, mais on sent que il y a peut-être encore plus de professionnels, encore plus de calculs, tout est encore plus calculé, tout est encore plus au gramme près. Et donc, bah, forcément, ça fait que, bah, ouais, des records peuvent tomber. Le matériel aussi, hein, le matériel s'allégit. Donc, forcément, il y a des records. Il y a des records qui tomberont, qui vont tomber, qui sont tombés. Et voilà, et peut-être qu'un jour on se rendra compte que ben finalement tous ces milligrammes n'étaient que du dopage, peut-être qu'on s'en rendra compte dans plusieurs années, mais aujourd'hui si on veut être dans le rationnel, ben c'est vrai que le cyclisme évolue et aujourd'hui quand on voit aussi l'interview des jeunes Français qui partent dans les World Tour et puis qui quand ils sont avec Total et Direct Energy et qui voient les autres équipes, ils sont impressionnés. Ben, tu te demandes aussi peut-être qu'est-ce qui se passe dans les équipes françaises, comment ça se fait qu'autant de coureurs peuvent être aussi impressionnés par le travail d'autres équipes étrangères. Pourquoi est-ce que nous on fait pas pareil? Est-ce que, enfin, oui. Voilà, plein de questions à se poser. Et,
on va dire que la seule grosse équipe qui se professionnalise, en tout cas côté français, enfin tous elles sont professionnelles, je me suis mal expliqué, mais on va dire l'équipe qui se penche à mes yeux le plus sur les performances, sur la modernité, je pense que ça reste l'équipe Groupama FDJ. Hein, voilà, c'est, il y a pas débat, c'est la mieux classée au classement UCI à chaque fois. C'est celle qui ramène le plus de résultats, c'est celle qui a ramené le plus de podiums sur les grands tours aussi. Ah voilà, moi je pense que on est en retard côté français. Après c'est un autre débat, ça serait long de le faire, mais ouais. On va dire que côté français, quand on voit Total Energy, ça, il y a ce côté qui se dit oui, c'est familial, c'est beau tout ça, mais au niveau des résultats, bah ils y sont pas, quoi. C'est ça qui est dommage.
L'interview de Bernardo est quand même assez inquiétante. Enfin, il dit on veut pas prendre un coureur que par ses watts, mais bah, finalement c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, quoi. Ça reste quand même une équipe professionnelle.
L'époque Vauclair, Roland, tout ça, bah c'est fini, quoi. Et puis bah bien sûr le côté affectif et puis le côté familial, c'est toujours important, je nie pas le contraire, mais et c'est ce qui est beau dans le vélo parfois, mais on va dire que
c'est pas un jeu finalement.
C'est quoi. Voilà, c'est au petit bonheur la chance des Thomas Vauclair, t'en as un, mais tous les 10 ans, tous les 20 ans. Et puis regardez Pierre Roland, il a fait 2-3 bons résultats et puis bah il s'est retrouvé chez Education First à rien faire, quoi. C'est dommage. C'est comme ça qu'on peut gâcher des talents, quoi.
Ah ça, puis voilà, ils sont repartis sur un nouveau cycle, mais c'est vrai que l'interview dans l'équipe de Bernardo est quand même assez inquiétante, quoi. Enfin, il y a des résultats qui doivent être là et
On va dire que 10 victoires dans une saison, c'est pas suffisant, quoi, pour une équipe professionnelle.
Ouais, c'est sûr. Ils essayent d'être dans les deux meilleurs pro continentales, mais aujourd'hui c'est compliqué. Quand on voit Tudor par exemple, hein, qui est arrivé sur le.
Ouais, c'est intéressant.
Tudor, une OX. Ouais. Il y a de plus en plus d'équipes qui.
Tudor, ils vont être sur Paris-Nice, Tudor, et puis il y a des bons coureurs. Le projet de l'équipe de Fabian Cancellara, elle est ambitieuse, hein.
Ah ouais, non, ouais, elle est ambitieuse. Et puis voilà, ils
Moi,
sont allés chercher de bons coureurs, il y a de l'expérience, il y a
je vois
de
des
très
beaux
bons
noms, je vois
coureurs.
Dainese, je vois, il me semble, Matteo Trentin, il y a quand même Sébastien Reichenbach, il y a quand même de l'expérience.
Coureur qui est arrivé, Meyerhofer,
Oui.
hein, qui est aussi un très bon
Oui,
coureur.
Mayrhofer, oui, bien sûr.
Arvid de Kleyn qui a fait un très beau début de saison.
Et oui.
Donc non, ils ont de très bons coureurs. Et ben quand tu vois à côté l'effectif de Total Energy, ben c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué, même si attention, il y a du talent.
Oui, bien sûr,
Il y
bah
a
oui.
du talent,
Ils arrivent à
Burgodo.
chercher des victoires, voilà, Burgodo, La Tour, mais voilà, c'est ça le truc, c'est comme tu l'as dit, au Tour de France, bah c'est top 3, top 5, top 10, mais la victoire, elle n'est pas là. C'est ça qui est dommage.
Ah, ça, c'est mais bon, on espérera qu'ils sauront prendre un bon virage pour
Oui.
voilà faire un.
Bah, peut-être qu'il va falloir changer. Alors, ça paraît compliqué à dire, mais sauf que bah, Jean-René Bernodeau, ça reste quelqu'un qui connaît le vélo, mais est-ce qu'il arrivera à faire comme Madio et à se renouveler, quoi, et à essayer d'être plus moderne, quoi.
Parce que il dit que le passage de Sagan est réussi. Moi, je trouve
Bah
qu'en fait,
non, il est.
il est surtout réussi parce que il y a Spécialas qui arrive et que
Oui, voilà, c'est ça. C'est ce que
c'est
j'allais
ça.
dire, ouais.
C'est surtout là-dessus en fait où ben les coureurs étaient quand même heureux de rouler sur tel vélo.
Ouais.
Et le passage de Sagan, il est réussi
Ouais,
que grâce à
c'est
ça. Hein.
ça.
Sinon, c'est quand même assez sombre ce qu'a pu proposer Peter Sagan.
Très bien. Bon, on a un petit peu dérivé, mais bon, c'est ça aussi qui est intéressant. Hein. Bien sûr, on se fixe des thèmes, mais on arrive toujours à parler d'autres choses et c'est important, je pense, de parler aussi des équipes françaises à chaque fois. Et puis bah en général hein, c'est la reproche qu'on fait dans tous les sports quoi, c'est que la France n'est pas toujours à la pointe de la technologie hein. Le tennis hein, n'est-ce pas hein, aussi hein. Mais bon, c'est un autre sujet. Et puis enfin donc Tirreno, on en a parlé, Paris-Nice on en a parlé, l'Estrade Bianchi on en a parlé, et enfin le 115e Milan-San Remo, la course aux 300 km. On a hâte de le voir ce premier monument. Et quand on voit la start list chaque année, on se dit, ça ne peut être qu'une belle course.
Ouais, ça va encore être une belle course avec bah forcément une belle start list. On se souvient quand même l'année dernière hein, qu'on a eu peut-être une des images les plus mythiques hein, avec Ganna, Pogacar, Van Aert
Ah oui.
et Van der Poel qui suivent et puis derrière l'attaque de Van der Poel, c'est vrai que c'était quand même une sacrée image l'année dernière et puis ben c'est rebelote cette année avec Van der Poel qui sera là, Mohoric,
Et
Pogacar qui va essayer de venir chercher Milan-San Remo. C'est vrai que ça peut aussi être une alternative, gagner Milan-San Remo et gagner le Giro sans gagner le Tour de France, ça peut aussi être une
ah
saison qui
oui,
réussit pour Poggi.
tu sais très bien qu'il va pas
Il en veut
s'arrêter
plus, il en
là.
veut
Oui.
plus, il en veut plus, c'est sûr. Mais enfin, si il va gagner, par exemple, le San Remo et le Giro, San Remo, Liège-Bastogne-Liège et le Giro, ce sera quand même une saison qui sera réussie. Enfin, c'est pas le sujet, mais c'est vrai quoi, il y a une belle start list et Pogacar, je pense, pour moi, c'est aussi un des gros objectifs parce que ben, il va falloir l'Estrade, Milan-San Remo et donc bah, ça sera aussi sa course. Avec un calendrier restreint, c'est aussi bah, là où il pourrait être le meilleur. Et je pense qu'il sera peut-être dans son pic de forme pour Milan-San Remo, un de ses nombreux pics de forme peut-être
Il me semble que
de
Wout
l'année.
Van Aert ne sera pas sur
Ouais, non.
San Remo.
Non, il
Pas
me
de
semble
Wout
aussi qu'il n'y sera pas.
Van Aert.
À part si ça change d'ici là.
Oui. On a Christophe Laporte, encore une fois. Ah, moi c'est. Alors, j'ai vu son interview. Et moi, franchement, j'ai envie d'y croire. Hein. Sur tous les. À part peut-être sur Liège et puis sur le Tour de Lombardie, mais les trois autres monuments, il en serait capable. Hein. Moi, franchement, j'ai envie d'y croire hein, pour Christophe Laporte. Et puis, franchement, ça serait exceptionnel de voir le Français s'imposer. Il y en a des Français. Alors, il y a Alaphilippe qui sera présent, qui d'autre encore qui sera là. Il y a Benoît Cosnefroy aussi.
Victor Axel Laffey, Laurence qui sera là.
Axel Laurence côté Alpecin de Koenig, même si son rôle, je pense, ça va plutôt être d'accompagner Van Der Poel. Arnaud Démare, éventuellement. Pourquoi pas.
Et puis Pierre Gautrin, hein, moi je sais que peut-être un peu en temps dessous, mais il a quand même fait un très beau début de saison, un beau tour de la Provence, 11e sur l'Homme Loup. Il abandonne sur Kurne-Bruxelles-Kurne, mais un très beau début de saison de Gautrin, et pourquoi pas. Pourquoi pas une belle place à l'arrivée, ça pourrait être une belle surprise et une belle année pour Pierre Gautrin.
Ouais. À noter aussi la présence de KDB1, alors on sait tout, et de Michael Matthews dans la même équipe, et Luc Plapp aussi qui est là, pourquoi pas, intéressant.
KDB1, c'est un peu compliqué quand même.
Il y a un côté de moi qui a envie d'y croire chaque année pour Caleb, il a les capacités, mais dans les bosses, la saison dernière, c'était pas ça, quoi, malheureusement, pour KDB1. Hein.
Ouais, c'est ça, c'est un peu compliqué dans les boss. Je pense qu'il y a aussi encore des automatismes à trouver avec ses coéquipiers chez Jayco sur ce début de saison. Ça a pu être compliqué à quelques moments, même si voilà, il va gagner devant Cocard hein, sur.
Ouais.
Je ne sais plus où, sur l'UAE. Non, sur la Loulou Tour peut-être. Ouais, sur la Loulou Tour, il me semble. Ouais. Et donc ouais, c'est vrai que on a envie d'y croire, mais le changement d'équipe plus voilà, peut-être quelques automatismes à retrouver, et cette bosse qui est forcément plus que décisive hein, cette dernière difficulté, le podio est forcément qui rend difficile la course pour KDB1 quoi.
C'est une course à l'usure aussi hein, ce Milan-San Remo hein, c'est 300 km, c'est long, il faut avoir le mental. Je pense que c'est la course la plus complète. Je pense que tu dois être le plus complet sur cette course. Comme coureur complet, on l'a dit, il y a Van Der Poel pour défendre son titre. Moi, je vois encore des coureurs d'expérience, Michel Kwiatkowski qui sera présent. Mats Pedersen, moi, mon favori, c'est Pedersen. Je sais pas pourquoi, mais comme je te l'ai dit, je le sens bien. Il est en forme cette saison et je pense que ça peut le faire pour Mats Pedersen. Il a les capacités pour passer les bosses. Une pointe de vitesse, c'est un bon sprinter. Je pense qu'il peut, hein, Mats Pedersen, rivaliser avec tout le monde malgré la forte concurrence. Pogacar, quand on voit l'équipe autour de Pogacar, c'est énorme. Hirschi, Tim Wellens, Diego Lucci. À voir, mais je pense que ça va être une course très ouverte.
Ouais, non, mais je suis d'accord. Hein. Mats Pedersen, c'est un coureur de classe mondiale hein, qui peut être dans le top 7, top 8 des meilleurs coureurs aujourd'hui. Dès qu'il est aligné, on le cite forcément. Hein, donc ouais, il sera toujours favori quand il sera sur une start list, il sera toujours un peu favori et sur beaucoup de parcours en plus. Donc c'est ça aussi qui fait sa force, très complet. Donc forcément, voilà, un des 7-8 meilleurs coureurs aujourd'hui.
Projetons-nous un petit peu après Milan-San Remo. Donc quelques courses encore au mois de mars. On va commencer par le Tour de Catalogne avec quelques favoris qui vont venir se présenter sur cette course. Donc Tadej Pogacar qui sera aux côtés de Jevine, Félix Rochartner et Joe Almeida, le favori de cette course malgré certains bons outsiders. Côté Ineos, j'ai hâte de revoir le retour d'Egan Bernal qui avait fini troisième du Haut Grand Como derrière Lenny Martinez et Jonas Vingegaard. On aura aussi Garin Thomas à ses côtés, le troisième du Tour de France, et puis Tobias Foss. J'aimerais bien voir Tobias Foss faire des résultats cette saison. Ça serait bien, ça serait beau.
Ouais, c'est vrai que Tobias Foss est transféré chez Ineos cette saison.
C'est ça qui lui manquait, quoi.
Il y avait un chrono, il a fini à 10-11 secondes là, je sais plus si c'était sur le tour d'Algarve, il me semble, ouais. Où il finit peut-être un peu loin sur le chrono, mais ouais, c'est sûr. Après, c'est vrai qu'on n'en avait pas parlé forcément, hein, mais c'est vrai que Egan Bernal, le retour est quand même assez fou. C'est vrai, ouais. Que si on à l'avant-dernière étape, il est deuxième sur la première étape après le prologue, c'est lui le dernier à craquer, hein, dans la roue de Vingegaard. Et quand on sait d'où il revient, voilà tout ce qui lui est arrivé. Bah, et quand on repense au coureur que c'était avant, pas forcément, voilà, ça fait plaisir de le revoir, voilà, sur le devant de la scène. Et on espère qu'il y aura de beaux résultats et qu'il ouais. pourrait peut-être l'année prochaine s'ajouter encore en plus un nom à notre liste de super favoris sur le ouais. Tour de France avec Evenepoel, les Pogacar.
C'est ça, c'est ça. À noter alors aussi côté favori, donc on a aussi Hugh Carty chez IF qui sera présent, et puis on aura côté Soudal Quickstep Mikel Landa. Enfin, la Quickstep se dote d'un vrai leader côté montagne. Et puis côté Movistar, le retour de Nairo Quintana aux côtés de Henrik Maas. Et puis chez la Cofidis, Guillaume Martin, qui aime bien ses routes espagnoles, avec Brian Cocard qui sera également présent. Il y a du beau monde sur cette Vuelta à Catalogne, je trouve.
Oui, il y a du beau monde. Il y aura certainement un beau podium. Et quand on voit voilà les coureurs qui sont là, Simon Yates, Hoganhart, Bernal, Van Wilder aussi, hein, qui sera là
ouais, c'est ça.
Pour la Quick Step, Carty peut-être voilà un petit peu en tour en dessous, mais un tour en dessous, mais et puis Hustebrooks aussi, hein, et Sepp Kuss qui seront là.
Ouais.
Donc non, franchement, ouais, ça sera un beau tour de Catalogne où les dernières Roglic et Evenepoel. C'était répondu coup sur coup, et Roglic avait fini par l'emporter, mais non, franchement, ouais, une belle start list et ça sera sympa de suivre ça. Et puis on n'a pas noté, mais Lini Martinez, hein, qui devrait être
et
sur.
Oui, et oui, j'allais en parler, mais oui.
Le Tour de Catalogne.
Exactement, Lini Martinez qui va peut-être réussir à confirmer. Et enfin, sur la fin de ce mois de mars, en route vers les Flandres. L'enchaînement classique Bruges de Panne le 20 mars, le Grand Prix E3, le Gent-Wevelgem à travers la Flandre, et enfin le fameux Rond van Vlaanderen, le Tour des Flandres, le 31 mars. Il y a du beau monde qui est prévu sur ces deux semaines en Flandre. Wout van Aert, Christophe Laporte, tous les coureurs de classique, c'est les rendez-vous à ne pas manquer.
Ouais, c'est l'automne, c'est l'automne, oui, c'est le printemps, pardon. Le printemps, les saisons sont mélangées. C'est le printemps, c'est les Flandriennes, c'est tout ce qu'on aime finalement. Hein. Oui. On a un bel enchaînement là jusqu'au Paris-Roubaix. On a vraiment un bel enchaînement entre l'Italie avec l'Estrade, Milan-San Remo et Tirreno. On a Paris-Nice, on a les Flandriennes. Donc non, franchement, ouais, ça va être encore ouais. Et comme d'habitude un beau morceau. Ouais.
À noter, Pogacar ne sera pas sur le Tour des Flandres, celui qui a réussi à mettre en difficulté Mathieu Van Der Poel pour le Tour des Flandres, hein, qu'il a magnifiquement remporté d'ailleurs, Pogacar. Van Der Poel, peut-être enfin son heure sur le Tour des Flandres, cette course qui lui échappe depuis trois ans maintenant, depuis sa dernière victoire. Je pense que Van Der Poel, ça serait le gros favori. Malgré qu'il y ait malgré qu'il y ait du monde hein, autour, hein, bien sûr, Van Aert, Laporte, plein de favoris, Mats Pedersen, tout ça, moi. Mais je vois bien quand même, je vois bien Mathieu Van Der Poel s'imposer sur les Flandres.
C'est possible, il avait déjà gagné en 2022, non ?
C'est ça, oui. C'est ça, oui. Il avait déjà gagné et Pogacar lui a piqué un triplé qui aurait été historique.
C'est ça.
Non, franchement, du beau monde et je pense que ça va donner sur ces deux semaines flandriennes.
C'est en 2021 aussi, avec le sprint où il revient de très loin. Ça.
Oh oui, incroyable.
C'est ça, ouais.
Pogacar qui perd la course comme ça, ouais, c'était impressionnant. Bon, eh bien, je vois qu'on a fait le tour. On a fait le tour du sujet en tout cas sur les classiques flandriennes. Alors après, il faudra se projeter plus loin. Il y aura Paris-Roubaix, l'Amstel, Flèche Wallonne, Liège, et puis après viendra le Giro, Tour de France. On a hâte, hein, franchement.
Ouais, franchement, ouais, comme j'ai dit, ça va être un bel enchaînement et on a hâte de suivre tout ça.
Ouais, franchement, incroyable, j'ai hâte. Et puis on sera vite de retour hein, pour Barbecue Vélo, bien sûr. Merci, mon cher Terry, d'avoir répondu présent. Franchement, c'était un plaisir. On n'était que deux, mais le tandem Ladan Alain Philippe l'a fait toujours, franchement. Et oui, merci à Jacques Lafrite qui nous dit on a hâte de vivre ça avec vous. Et bah, ne t'inquiète pas, on sera présent pour les prochaines émissions. Merci encore, c'est mon sûr. Thierry.
Ben merci à toi d'avoir animé, ce barbecue. Et puis voilà, je précise Tour des Flandres 2020, pas 2021. Je me disais, non,
mais c'est pas, on
va pas l'enlever à Casper Asgreen, ce Tour de Flandres 2021.
Ah, non, on lui enlèvera pas. Ah oui, j'espère qu'on le reverra d'ailleurs, Casper.
Donc voilà, non, merci encore à toi et puis voilà, bonne course et puis on se retrouvera voilà, pour débriefer, je sais pas quand, peut-être après Paris Nice, après.
Oui, bien sûr.
Après les Flandriennes, voilà. Ouais.
Eh bien, merci à toi encore, mon cher Thierry. Je vais saluer un peu tout le monde avant la fin de cette émission. Merci à Louis, le patron de RMC, hein, qui a relancé l'émission. Merci à Jules, qui va assurer la post-prod, Rulio Le Feno. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe de Radio Merguez & Co. Merci à vous, ceux qui vont suivre le podcast et ceux qui ont suivi le live. Hein. Merci d'avoir été présents. Ceux qui, j'ai vu sur WhatsApp les messages, ceux qui ne parlent pas dans le chat mais qui sont quand même présents. Merci à vous, les amis, d'avoir été présents, de nous écouter. Et on espère vous revoir bientôt. Je pense que le prochain barbecue, ça sera pour le débrief de Paris-Nice, bien évidemment. J'ai hâte de voir ça avec vous. Hein. Et puis, il y aura aussi l'Estrade Bianche. On débriefera tout ça. Il y aura peut-être une preview aussi pour Milan San Remo. On verra. Mais plein de belles choses s'annoncent avec vous, les amis. Et on a hâte. Hein. On a hâte de faire cette saison avec vous. Merci tout plein de nous avoir écoutés. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une très bonne fin de semaine pour ceux qui nous écoutent en podcast et ceux qui vont nous écouter. C'était Julien Lafilippe et Thierry Ladan pour vous servir. Ciao, ciao!
Ciao.